Bonjour à toutes et à tous, nouvelle vidéo depuis Cannes. On a vu hier soir The Shrouds, ou en français Les Linceuls, de David Cronenberg. Alors souvenez-vous, il y a deux ans, sur la chaîne YouTube, on a parlé du dernier film de David Cronenberg qui était Les Crimes du Futur. On n'avait pas du tout été convaincus par ce qu'on avait vu. Ce film-ci est un film qui cette fois est tourné à Toronto, avec un casting français notamment, avec Vincent Cassel dans l'acteur principal, qui joue donc Karch, qui est une espèce d'hommes richissimes qui a construit en fait des prototypes de tombes connectées où l'on peut voir les cadavres en train de se décomposer. La petite particularité, c'est qu'il a enterré sa femme qui est morte tragiquement à la suite d'une maladie. Et donc il est un petit peu endeuillé, il n'arrive pas vraiment à s'en sortir. On va avoir en plus de ça une sorte d'enquête qui va se mettre en place à partir du moment où les tombes seront saccagées. Josué, est-ce que ce nouveau film de Cronenberg après Les Crimes du Futur t'a convaincu ?
Alors non, mais je pense que je suis un peu au stade supérieur de décomposition par rapport à vous, qui êtes sorti un peu déçu et circonspect face au film. C'est-à-dire que bon, moi je pense que j'ai un peu lâché l'affaire sur Cronenberg. Et en même temps, le film crée quelque chose par son état avancé vraiment de délabrement, par endroits qui presque m'intéressent ou me fascinent un peu. Mais je veux dire, je regarde le film un peu comme je pense Vincent Cassel regarde le corps de sa femme sur sa tombe en train de se décomposer. Et je me demande si le film, d'une certaine manière, ne travaille pas cette espèce de mise en abîme ou d'allégorie, puisque littéralement, il n'y a plus de corps. Et ça, c'est quand même quelque chose... Bon, c'est une tendance lourde, on va dire, du cinéma de Cronenberg, qui ne démarre pas avec ce film, qui remonte même à un certain temps. C'est-à-dire que ça a été un cinéaste de l'organique, et c'est devenu de plus en plus un cinéaste de la surface, de la texture métallique, de quelque chose qui serait vraiment de l'inanimé. Et là, il y a cette idée qui, à mon avis, est la plus ratée du film et qui lui donne son côté très ingrat, c'est que désormais, les films de Cronenberg pourraient uniquement se passer sur un iPad ou sur des écrans. C'est-à-dire qu'il va y avoir un embranchement d'applications, d'écrans d'ordinateur,
de GPS,
d'iPad, de conversations téléphone, qui travaille une forme d'hybridité des images, mais qui n'est pas du tout prise en charge par la mise en scène. Moi, il y a un endroit précis, puis ensuite je passerai la parole à l'accusation plus féroce que moi. Il y a quand même un truc qui m'intéresse dans le film, mais c'est vraiment débris, parce que c'est vrai que c'est un film qui est extrêmement... C'est une forme de continuité dialoguée très confuse et qui travaille, je pense, une forme de confusion dans son scénario. Mais il y a deux, trois scènes que je trouve très belles, et à mon avis, qui sont les scènes pour lesquelles Cronenberg a fait ce film, qui sont les scènes où, en fait, le fantôme de sa femme défunte lui apparaît en rêve, dans des espèces de rêves, entre le cauchemar et le rêve érotique, et où d'abord c'est juste une ombre, entière, puis amputée, etc. Et ça finit sur une scène que je ne raconterai pas, mais qui est une scène très énigmatique, et une fin énigmatique comme Cronenberg parfois les aime, et qui en gros raconte un peu ce que veut raconter le film, c'est-à-dire le monde contemporain, le monde numérisé, et encore plus le monde de Cronenberg, qui on le sait, c'est un peu l'argument derrière le film, a perdu sa femme en amont du tournage, et qui fait un peu un film sur ça, sur son deuil, est devenu une forme de limbe, quoi. Et désormais, le cinéma de Cronenberg est une espèce de truc complètement éthéré, complètement désincarné, complètement dévitalisé, qui erre dans un royaume entre la vie et la mort.
Oui, et puis alors moi je te rejoins sur les qualités du film. Ça commençait même bien parce que la toute première scène
est assez
beau. On voit précisément voilà une espèce d'œil qui regarde la tombe et puis après il y a une espèce de zoom comme ça qui arrive sur le visage de Vincent Cassel qui ouvre la bouche juste avant un cri. Enfin voilà, il y a un raccord et moi je trouvais que ça commençait bien. Il y avait même une idée qui est introduite quand même assez tôt. Ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est que l'idée qu'en fait nos téléphones et nos appareils numériques sont en fait des tombeaux quoi. En fait, à travers lesquels on voit d'autres fantômes. Voilà, et que, en fait, à partir du moment où on utilise ces outils, on devient soi-même un fantôme, on se dématérialise. Enfin, il y a quelque chose comme ça, d'une forme de... En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça commence comme ça, les tombes ressemblent, les espèces d'iPad, en fait, cette espèce de bloc noir, de monolithe noir. Et j'étais assez emballé, et puis à un moment, ça rejoint un peu, quand tu parles de continuité de dialoguer, c'est du dialogue filmé quand même à 90% du temps. Et ça peut être assez problématique pour moi.
Assez à la rigueur, pourquoi pas, parce qu'on peut très bien faire un film uniquement de dialogue qui soit mis en scène. Là, le problème, c'est que ça repose, il y a quelque chose de très automatisé dans la manière dont c'est organisé.
Ouais, c'est ça, et puis surtout, ça s'est mis au service d'une sorte d'enquête quand même un peu aberrante ou très laborieuse où on met plusieurs scènes à réexpliquer toujours les mêmes choses. C'est un film qui n'avance pas. Ça me le rend intéressant parce que je me dis, en fait, je vois le cadavre d'un film. Là, je vois la dépouille d'un film, on n'arrête pas, c'est une image qui revient assez souvent dans le récit, de revoir donc le cadavre de sa femme en état de décomposition et on essaie de trouver les petites particularités, les petites anomalies qu'il y a à l'intérieur de ce cadavre. Alors du coup, j'étais un peu dans cette position-là devant le film, c'est peut-être aussi une sorte de mise en abîme, comme tu dis, voilà, du processus qu'on a devant le film, mais je peux pas dire du tout que j'ai été convaincu ni emballé, sachant ce que Cronenberg a fait auparavant. Et moi, j'ai envie de dire que ce film-là, pour moi, révèle aussi à quel point le précédent était déjà raté, quoi. Je sais qu'on a entendu un petit peu l'inverse des fois, mais j'étais vraiment un petit peu dépité presque en sortant des Crimes du Futur et en sortant de ce film-là.
Oui, ensuite, je pense qu'il y a une tendance du cinéma de Cronenberg sur ces derniers films, mais d'une certaine manière, on pourrait toujours le... C'est le problème de ces cinéastes qui ont un univers, pour dire les choses ainsi, très fort. C'est la question de savoir est-ce que ça tient sur l'imaginaire ou est-ce que ça tient sur la mise en scène. Et Cronenberg, c'est intéressant parce qu'il a fait d'abord des films complètement ancrés dans son imaginaire qui précède un peu ce qu'on appelle aujourd'hui, mot un peu à la mode, la body horror. Et il a fait aussi des films qui étaient assez dépouillés de ça. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de cinéphiles critiques qui ont pu être déboussolés par les films de Cronenberg qui sortaient de ce carcan-là. Je pense par exemple à M. Butterfly ou Dangerous Method, qui par ailleurs sont parmi les films que je trouve de Cronenberg les mieux mis en scène. Et là, c'est vrai que la question qui se pose est un peu la même que devant Les Crimes du Futur, c'est-à-dire est-ce que ça ne tient que sur des restes d'imaginaire qui seraient toujours là, puisque ça reste un imaginaire complètement cronenbergien, notamment dans l'entrelacement de Eros et Thanatos, quand même quelque chose qu'il a beaucoup travaillé et qui là est toujours là, dans un espèce de jeu parfois pervers entre le personnage par Vincent Cassel, qui est lui-même d'ailleurs un avatar de Cronenberg assez net dans sa coupe de cheveux, notamment.
Les cheveux blancs, un peu dressés.
Et sa belle-sœur, qui est en fait la jumelle de sa femme morte.
Jouée par Diane Kruger.
Jouée par Diane Kruger, donc là on est même sur quelque chose de potentiellement vertigo. Est-ce qu'il n'y a plus que ça? Il n'y a plus que l'imaginaire, et donc on est sur une forme d'étiolement total. Moi je crois que le film tient sur une idée qui malheureusement est assez bancale, c'est que le linceul c'est le film. Le linceul c'est le film, et qu'au fond il n'y a qu'un cadavre en décomposition, et qu'il ne reste plus grand chose. Ensuite, il y a quand même 2-3 bribes, 2-3 moments troublants où il reste ce cinéaste qu'on a aimé, qu'on aime aujourd'hui moins, même dans ses films les plus réputés. Ouais. Moi, je veux dire, Cronenberg, de manière générale, c'est un peu redescendu. Mais par exemple, le dernier plan suspendu, cette espèce de note un peu étonnante où le film se termine dans la brume et les nuages, moi, j'avoue que ça marche un peu. Et ça me rappelle quand même qu'à un moment, le cinéma de Cronenberg nous a troublés, nous a excités,
nous a émus.
Ça marche,
je trouve, quand les corps reviennent, en fait, quelque part. Ouais. C'est aussi ce que dit le personnage principal plusieurs fois. Il arrête pas de raconter du fait qu'il est presque devenu asexuel, en fait, qu'il a plus de désir, qu'il y a plus de chair en lui, il y a presque plus de flux sanguin en lui, c'est déjà un cadavre lui-même. Et il va essayer de retrouver ce désir petit à petit de manière un peu détournée, d'abord en couchant donc avec une femme qui a commandé un de ses cercueils pour son mari défunt qui est aveugle. Et il va faire pareil, donc ensuite, je vais pas forcément tout révéler, avec un autre personnage. Mais voilà, il y a cette idée de retrouver le désir. Et moi, je trouve que les scènes de sexe ou les scènes d'intimité, en tout cas, sont celles qui marchent un petit peu le mieux, mais aussi parce que j'ai pas eu grand chose à manger à côté.
Alors, ça, c'est intéressant parce que je pense justement ça permet de mieux circonscrire le problème. C'est ce que le problème, c'est un manque de corps, parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup dit sur Cronenberg, c'est-à-dire il y a plus de corps, il y a plus de corporalité, et c'est justement ça devient un cinéma trop cérébral, trop verbeux.
Dévitalisé.
Voilà. En fait, je pense pas, parce que je crois qu'il y a des films qui ont prouvé le contraire. Je parlais de M. Butterfly, mais on peut parler évidemment de deux films qui étaient un peu. Qui ont été moyennement reçus à l'époque, qui sont pourtant peut-être parmi les derniers Cronenberg un peu convaincants, qui étaient d'une part Dangerous Method et dans une moindre mesure, parce que j'ai quand même pas mal revu le film à la baisse, Cosmopolis. Et dans ces deux films, où la corporalité était beaucoup moins incarnée que dans d'autres, ça tenait sur du désir, je pense. Je pense que le problème du cinéma de Cronenberg, c'est pas qu'il délaisse le corps, le problème du cinéma de Cronenberg, c'est qu'il a plus forcément beaucoup de désir. Et là, il a un désir qui est un peu malade, qui serait un désir pour quelque chose qui est déjà plus là, qui est déjà mort, qu'on contemple froidement à distance. Ça résume quelque part tout le positionnement de Cronenberg.
Ouais, et en contraste avec Coralie Farja, la vidéo d'hier, où on parlait vraiment de quelqu'un qui avait faim, qui avait la dalle, qui avait du désir. Là, on est vraiment sur une espèce d'antithèse, en fait, malheureusement, ça lui sert pas beaucoup.
Ce qui était déjà arrivé il y a 2 ans, puisque le jour de la présentation des Crimes du Futur, il y avait Deumani Corporis Fabrica, qui était lui une plongée totale dans les boyaux. Et c'est vrai que ça fait quand même 2 festivals de Cannes de suite que Cronenberg, dans la même journée, est quelque part, désolé, c'est un peu cruel, mais ringardisé par quelqu'un de beaucoup plus jeune que lui, qui explore un horizon, qui n'est pas exactement le même non plus, mais en tout cas, qui travaille de quelque chose qui serait irrité de ça, entre une manière, dans un rapport au corps et dans une étude au corps quasiment au sens médical du terme.
Bien sûr, avec une vitalité dans la mise en scène, une énergie voilà, qui, pour le coup, produit des choses qui sont réussies ou pas, mais en tout cas qui tentent, qui essayent, qui cherchent quelque chose. Et j'ai l'impression que Cronenberg, des fois, là, avance un petit peu à tâtons, fait quelque part un petit peu ses adieux, dresse sa tombe, etc. Voilà, c'est pas forcément le film qui va, je pense, emballer le plus dans sa filmographie. Après, je pense qu'on peut lui trouver des qualités.
Je pense que c'est vraiment intéressant à une échelle presque intra-autoriste. Quoi. Oui. C'est-à-dire, je connais Cronenberg, c'est au-delà de la question de est-ce que c'est pas bien ou c'est vraiment pas bien. Ça raconte quand même quelque chose à l'échelle de sa filmographie. Ensuite, il ne faut pas être dupe sur les limites et les faiblesses de sa mise en scène.
Et puis même du scénario qui est à l'intérieur de cette mise en scène-là, qui est quand même un peu abracadabrantesque, qui a une histoire de complot où à un moment ça finit sur c'est les Russes, c'est les Chinois, des hackers russes, etc. Enfin, vraiment une sorte de caricature un petit peu. Il y a toujours eu ça chez Cronenberg, je trouve, ce côté complot caricatural qui englobe tout, notamment le plus connu qui serait Vidéodrome, voilà, le film de complot par exemple.
Ça raconte un peu quelque chose, c'est-à-dire qu'on est dans un monde où il n'y a plus de vérité, il n'y a plus qu'un embranchement de fiction malade, et ça il le raconte un petit peu, c'est-à-dire que même la fin, on ne sait pas exactement, il y a un corps qui est apparu, on ne sait pas exactement d'où il est. À cet endroit-là, je pense que Cronenberg essaye quand même, cette confusion, à mon avis, elle est travaillée, je ne la trouve pas très passionnante, mais il essaye de montrer un espèce de monde post-vérité, post-corps, post-image, etc.
Merci beaucoup Josué, je pense qu'on peut s'arrêter là en tout cas pour Cronenberg. On se retrouve tout de suite pour la carte blanche et à demain pour une nouvelle vidéo.
Aujourd'hui je vais vous parler de Miséricorde d'Alain Guiraudy. Alors il se trouve que dans un texte sur Ma vie, ma gueule de Sophie Filière, je parlais d'elle comme d'une cinéaste île. Et je crois qu'Alain Guiraudy aussi est quelque part un cinéaste île, c'est-à-dire qu'il creuse un sillon dans sa filmographie qui n'appartient vraiment qu'à lui. D'ailleurs, il a aussi un territoire qui est vraiment le sien, qui est celui du Sud-Ouest, plus précisément souvent de l'Aveyron, même s'il a pu faire des écarts, comme c'était le cas dans son précédent film « Viens, je t'emmène » à Clermont-Ferrand. Et disons qu'il y a un peu de deux veines qui s'affrontent dans le cinéma de Guiraudy, une veine peut-être plutôt réaliste, terre-à-terre, qui serait un peu rêche comme ça, qui serait celle de « Ce vieux rêve qui bouge » ou de « L'inconnu du lac », et une veine plus imaginaire, plus ou moins bordélique, qui serait celle des autres films. Ici, après Viens, je t'emmène, qui était effectivement vraiment très bordélique, Guiraudy revient à cette ligne vraiment réaliste, avec un scénario vraiment extrêmement bien écrit, très rigoureux. Voilà, c'est une sorte de polar à l'os, quelque part, dans un village de l'Aveyron. Un homme revient après la mort du père d'un ami d'enfance qu'on comprend qu'il a beaucoup compté pour lui, notamment sur des questions de désir, même si ça reste flou dans le film. Et voilà, et petit à petit, autour de seulement 4 ou 5 personnages, il va y avoir un meurtre et on va rester comme ça avec le tueur et sa culpabilité. Je trouve le film déjà m'a plutôt plu, vraiment, surtout après Viens, je t'emmène, qui était le seul film de Guiraudy à ce jour que je n'aimais pas. Il a comme ça... Oui, c'est ça, c'est une forme de ligne droite, mais paradoxalement, ce qu'il y a de plus plaisant dans le film est justement ce qui déborderait et ce qui rappellerait le Guiraudy plutôt débridé. Donc ce serait par exemple le surgissement à plusieurs... il y a beaucoup de surgissements dans le film, et c'est à cet endroit-là que le film est intéressant. Il y a le surgissement d'un gendarme notamment qui est extrêmement drôle, et il y a aussi au centre du film, comme en atteste le titre, un personnage de curé qui est vraiment comme ça une pure... figure guiraudienne, de corps légèrement bedonnant, d'homme ressentant du désir qu'il ne peut pas assouvir. Et là, à cet endroit, le film est vraiment très, très, très puissant, je trouve, et très précis. Mais là où peut-être le film m'a légèrement déçu, enfin continue un peu à me décevoir, j'ai l'impression qu'en fait, Guiraudy, c'est peut-être une théorie depuis qu'il écrit des romans, et qu'il est passé au numérique, son cinéma a peut-être été un peu moins fougueux. Et là, c'est vrai que le film est quand même très enfermé dans des intérieurs un peu blafards, un peu grisâtres. Et c'est plutôt quand Guiraudy va chercher dans la forêt, avec les couleurs de l'automne, et notamment dans les nuits. Les nuits, pour le coup, là, c'est vraiment le passage au numérique de Guiraudy, vraiment intéressant dans la manière qu'il a de filmer les nuits, donc vraiment très très sombre, ce que ne permettrait pas le 35 mm. Là, le film m'intéresse vraiment. Mais donc voilà, c'est une... vraiment plutôt une réussite, mais avec quand même toujours une part de déception pour le guiraudien féru que je suis.